Et un comité. Ce dernier sera chargé d'élaborer des projets porteurs visant à stimuler et dynamiser la vitalité économique. Me voilà rassuré, écrit-elle. Moi, quand je sais qu'il y a un comité, je dors sur mes deux oreilles et vogue la galère. Je trouve ça très bon.
Très bon, très bon.
C'est écrit avec sarcasme, bien sûr, mais dans une plume qui me divertit beaucoup. Gilles, on va se dire à lundi.
Oui, et on termine cette journée la plus sombre de l'histoire de Rivière-du-Loup.
Oui, historiquement parlant.
Historiquement parlant.
Surveillons la suite maintenant. Oui. Salut, à lundi.
Salut, Daniel.
Et à vous tous, mesdames, messieurs, c'est le Québec maintenant qui s'enclenche dans quelques secondes. On vous souhaite une belle et bonne soirée.
Réseau Cogeco Média. Cogeco Média. Cogeco Média. Voici le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant, maintenant, maintenant. Avec Philippe Quentin.
Dans une vingtaine de minutes, je vais recevoir avec plaisir la députée de Saint-Laurent pour le Parti libéral du Québec, Marois Risky. Marois Risky est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Alors, on va parler avec elle des récentes coupures qui ont été annoncées par le gouvernement. Mais on va aussi faire le bilan de l'année politique avec cette députée qui, encore une fois cette année, s'est considérablement fait remarquer et pour les très, très bonnes raisons. Mais d'abord, les nouvelles avec Valérie Leboeuf. Alors, Valérie, Justin Trudeau va procéder à un remaniement ministériel demain à Ottawa.
Oui, et il confirmerait de cette façon qu'il reste en poste après une semaine de turbulences à la suite de la démission surprise lundi de Chrystia Freeland, qui était vice-première ministre et ministre des Finances. Et on écoute à ce sujet l'analyste politique Tasha Carradine.
Il y a plusieurs ministres qui ne vont pas se représenter. Alors, tu veux donner ces postes-là à des gens qui vont rester dans ton équipe. Et aussi, c'est une période critique là avec les États-Unis qu'on va vivre bientôt avec Donald Trump qui vient. Alors, dans les postes clés, il faut que tu aies des joueurs qui sachent ce qu'ils font et tu peux pas miser trop sur des nouveaux joueurs.
Et puis, on annonce du temps très froid dans les prochains jours, là, spécialement dans la nuit de samedi, la nuit de dimanche. Alors, la Ville de Montréal a décidé de ne pas attendre l'approbation de Québec et ouvre une nouvelle halte chaleur.
Oui, halte chaleur de nuit de 30 places assises qui va coûter à la Ville de Montréal 20 000 $. Et la mairesse Valérie Plante a dit qu'elle a cependant l'intention de refiler la facture à Québec. Elle ne voit pas comment le gouvernement du Québec pourrait refuser de payer. Et le responsable de l'itinérance au comité exécutif, Robert Baudry, qui estime que le gouvernement Legault doit comprendre qu'il fallait agir rapidement.
Il y a quelque chose de structurant ici, il y a quelque chose qui répond à un besoin. C'est une responsabilité d'État. L'État doit prendre ses responsabilités à cet égard-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tend la main aujourd'hui. On dit, les Montréalais, on est prêts à faire un effort. On est prêts à l'ouvrir rapidement parce que le besoin est présentement.
Et le désormais célèbre Luigi Mangione a comparu cet après-midi à New York pour 4 accusations fédérales en lien avec le meurtre d'un PDG de la compagnie d'assurance santé United Healthcare.
L'homme de 26 ans, Philippe, qui est accusé de meurtre avec une arme à feu, 2 accusations pour avoir traqué la victime et une liée aux armes à feu. Les procureurs fédéraux ont demandé sa détention et ses avocats ont fait savoir qu'ils ne réclament pas de libération sous caution pour l'instant. Luigi Mangione avait accepté d'être extradé lors d'une audience en matinée en Pennsylvanie où il était détenu depuis son arrestation. C'était le 9 décembre dernier, survenu 5 jours après le meurtre de Brian Thompson. Rappelons que les autorités de l'État de New York l'accusent pour leur part de 11 chefs d'accusation, dont meurtre en tant qu'acte de terrorisme.
Et dans la terrible affaire des viols de Mazan, Gisèle Pellicot espère que les verdicts de culpabilité qui ont été rendus à l'encontre de son ex-mari et de ses 50 co-accusés ouvriront la porte à un avenir meilleur.
Dominique Pellicot, qui a été condamné à 20 ans de prison pour avoir drogué et violé son ex-femme pendant près de 10 ans, tout en permettant à d'autres hommes de la violer alors qu'elle était sous sédation. Réagissant au verdict, Mme Pellicot a soutenu qu'elle souhaite voir un changement de culture.
J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle.
Et sur la scène internationale, Vladimir Poutine affirme que la Russie est prête à des compromis avec l'Ukraine, mais que ces compromis doivent venir des deux parties.
Le président russe qui s'est prêté aujourd'hui à sa séance de questions-réponses annuelle, il s'est dit prêt à rencontrer
Habituellement,
le président.
Habituellement, ça dure 5 heures ou 6 heures. Est-ce que ça a été aussi long?
J'ai pas la durée, mais c'est vrai que c'est très, très long habituellement. Et lui, souhaite rencontrer Donald Trump qui a promis de mettre fin à la guerre. Il ne considère toutefois pas le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme légitime à cause du report des élections présidentielles et Vladimir Poutine qui rejette par ailleurs l'idée d'une trêve.
Mais je pensais que Donald Trump était supposé régler ça à peu près le lendemain de son élection. Il est peut-être
c'est
même
le 20
déjà...
janvier, là.
Non, pas de son,
son
intronisation. Okay. Valérie, il n'avait pas dit le lendemain de son élection?
24 heures, et même avant qu'il soit assermenté.
Voilà.
À Montréal. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco Média, voici le Québec maintenant. Québec maintenant, avec Philippe Quentin.
Il est 17h05, il fait actuellement moins 5 à Montréal, le ciel est partiellement dégagé. Le mercure va chuter là. Pendant la nuit avec le refroidissement éolien, ce sera un ressenti de moins 20. Demain, une journée alternance soleil et nuages et ça sera encore assez froid. Alors là, il y a deux nouvelles. La bonne nouvelle, hein, c'est que pour le 24 décembre, pour les gens qui vont voyager, qui vont aller visiter la famille pour le réveillon, les routes devraient être pas mal au Québec. Il n'y a pas de tempête de neige d'annoncer. Mauvaise nouvelle, par contre, c'est que dans les jours qui nous mènent au 24 décembre, il va faire très, très froid. Ce sera le cas samedi, dimanche également. Alors, Catherine, il va falloir que tu sortes ta tuque.
Mais est-ce qu'il y aura de la neige?
Oui!
Écoutez bien ça, c'est Émilie Duprat, notre recherchiste, qui a tout préparé ça dans notre feuille de route. Un tapis de neige dans la nuit du 23, mais pas de tempête majeure.
Poème presque.
Oui!
C'est pas l'année où on va golfer à Noël.
Non, puis je me souviens d'avoir jogué en culotte courte un 25 décembre ou un 26 décembre.
Il faisait 20 degrés.
S'il vous plaît, de la neige pour les enfants et pour les parents aussi qui veulent les envoyer dehors.
Exactement.
On m'a demandé qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux que les chansons de Noël que tu as présentées la semaine dernière au Vendredi Groovy.
Dur à battre.
C'est battable. Parce que demain, je mets la table pour notre Vendredi Groovy.
T'es une femme de défi.
Oui, mais je travaille bien avec Richard Marquis qui a eu une idée incroyable. On va pousser ça d'un cran. On est allé avec des chansons festives qui nous donnent le goût de faire le party, peut-être un peu boire de l'alcool, mais on va y aller plus dans la thématique jour de l'an, party. On commence ça.
Chevalier de la fable ronde, allons voir si le vin est bon. Chevalier de la fable ronde,
ça me dit
allons
bien.
Voir.
Allez, on va tous faire oui.
On s'en va dans notre terroir.
Non, tu vas se faire un peu, Richard.
Allons voir.
Non.
Et si les gens chantent déjà autour de la table, imaginez ce que ça va être.
Wow.
Je vous donne un autre échantillon de notre liste.
C'est magnifique, ça
ben
aussi.
Oui.
Nous allons vivre des moments invraisemblables.
Le terroir.
Intense, Philippe, intense.
Oui. Alors, ça sera... Donc, c'est demain. Les Vendredis Groovy.
Oui, le party commence à 5 heures, officiellement, autour de la table. On va faire une revue culturelle autour de 16 heures.
On va faire une revue dans tous les secteurs de l'actualité. Demain, ça va être le fun. On a une émission un petit peu spéciale à vous proposer, mais bien sûr, on va suivre l'actualité du jour avec le nouveau cabinet.
Le remaniement ministériel.
Voilà,
le Vendredi est à 18 heures. Voilà.
Tout à fait. Merci, Catherine. Nathalie Normando.
Oui.
Alors, on va faire notre récap politique, mais là, ce ne sera pas le récap politique de la semaine, ça va être le récap politique de l'automne.
Voilà. Exactement, toujours avec nos analogies sportives, cher Philippe.
Exactement, donc j'ai bien hâte.
Provincial et fédéral.
Oui, et on va donner nos deux premières étoiles. Première étoile pour la saison d'automne en politique fédérale et en politique provinciale également. Valérie Beaudoin, salut.
Allô.
Encore beaucoup de nouvelles en provenance des États-Unis dans les dernières heures.
Là, je vais me penser à mes étoiles aussi en politique américaine. Je vais copier peut-être Nathalie tantôt, je vais faire
une
mise à jour.
Tu nous présenteras tes étoiles.
Une petite mise à jour quand même sur la politique américaine. J'aurais pu te faire plein de dossiers, mais je veux surtout prendre le temps. parce que je le sais qu'il nous écoute, d'envoyer mes vœux des fêtes et mes conseils à Joe Biden, Kamala Harris et Donald Trump. Alors, je t'ai préparé quelque chose.
OK, ben, j'ai très hâte d'entendre ça, Beaker.
Ben, j'ai la confirmation, j'ai écrit à Chantal Maccabée, elle m'a répondu. Oh. Il est en santé, Alexandre Carrier. C'était un petit peu partout, le Canadien avait transmis l'information, mais je ne la trouvais pas. Donc, Alexandre Carrier qui se joint au Canadien de Montréal. Mais sinon, ce soir, dans la NFL, un énorme match entre les Broncos de Denver et les Chargers de Los Angeles. Pourquoi? Ben parce que dans la division de l'association Ouest de l'Américaine, ben les Chiefs de Kansas City, on le sait, terminent premier. 13 victoires, une défaite. Mais les Broncos ont 9 victoires, 5 défaites. Les Chargers, 8 victoires, 6 défaites. Donc le match de ce soir est crucial pour leur place en séries éliminatoires. Savoir est-ce qu'on commencera sur la route, est-ce qu'on commencera à domicile, contre qui on va jouer, à quel moment. Donc un gros match ce soir. Sinon, je vous porte votre attention sur un article du Front Office Sports qui se pose la question: qui sera le premier joueur du baseball majeur à signer un contrat de 1 milliard de dollars? C'est pas pour tout de suite, mais on nomme trois noms. Celui de Eli De La Cruz, oui, qui est très jeune, qui a 22 ans seulement. Gunnar Anderson, qui en a 23. Et également Vladimir Guerrero Jr., qui en a 25. Donc, est-ce qu'on verra bientôt un joueur qui va signer pour 1 milliard de dollars dans le baseball majeur? Moi, je pense que le jour est peut-être un peu plus près qu'on le croit.
Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là?
Franchement. On va s'en parler, Catherine. J'ai belle idée, moi, pour 1 milliard.
Je trouve ça ridicule, mais je peux le dépenser.
Par exemple.
Il y a un joueur qui vient de signer un contrat avec les Yankees, Max Fried, le lanceur gaucher, puis il a signé un énorme contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et là, tout le monde l'a trouvé extraordinaire. Il a dit qu'il allait beaucoup dépenser en bouffe et en jouets pour son chien. Alors, c'est comme ça qu'il dépense.
Je comprends un peu.
Lui, là, Max Fried, est le prochain qui signera pour 1 milliard. Ben, Michel Boisvert, il y aura un bon pouvoir d'achat.
Ouais, quel lien. Me vole mon lien. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de pouvoir d'achat cette année. Et c'est très curieux, il y a une étude qui vient tout juste de sortir. Les Québécois ont l'impression et la perception que le pouvoir d'achat a baissé, leur pouvoir d'achat, bien au contraire. Le Québec se positionne par rapport à 32 pays de l'OCDE et les provinces canadiennes comme étant un des endroits où le pouvoir d'achat a le plus augmenté. C'est super intéressant. Mmh. Les États-Unis, par contre, y avaient raison. Ça a baissé.
OK.
Son opinion stimule la discussion. Discussion. Voici Nathalie Normando.
Pour ces petits problèmes techniques, là, mais tout est réglé, Nathalie. Ben oui, les joies du direct, comme on dit. Alors, on continue notre récap politique de la saison d'automne, Nathalie. Et puis, on va parler de Donald Trump.
En fait, oui.